21 juillet 1969. À Paris, il est 3h56 du matin. À New York, la soirée s'achève. À Tokyo, le soleil éclaire la ville. Mais à Paris, à New York, à Tokyo, comme dans tous les pays du monde, l'heure importe peu aux millions de téléspectateurs penchés vers les écrans où palpite une étrange image, un décor fantomatique, une lumière blanchâtre, une machine au contour anguleux où l'on discerne vaguement une sorte d'échelle. Et sur cette échelle, une silhouette humaine, engoncée dans un lourd vêtement, se meut lentement avec précaution. Au dernier barreau, l'homme hésite. On dirait qu'il n'ose abandonner la machine. Écoutez-le. C'est un petit pas pour un homme, un grand bond pour l'humanité. Ce petit pas, l'homme le fait. Ses pieds prennent appui sur le sol. Ses mains se détachent de l'échelle. Il se redresse. C'est fait. L'exploit impossible a été accompli. Un homme marche sur la Lune. Le nom de cet homme est dans tous les esprits. Il s'appelle Neil Armstrong. Il est américain. Il a 39 ans. Il vient de réaliser l'un des plus vieux rêves de l'humanité. Pour comprendre l'aventure de Neil Armstrong, il nous faut revenir 8 ans en arrière. Le 12
avril 1961.
Ce jour-là, le premier homme de l'espace, le lieutenant soviétique Yuri Gagarin, fait le tour de la Terre en 108 minutes à bord d'un engin spatial. Un mois plus tard, le président John Kennedy s'adresse au Congrès américain.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are...
Aujourd'hui, l'espace nous est ouvert. Notre nation doit se consacrer à atteindre un objectif. Faire atterrir un homme sur la Lune et le faire revenir sain et sauf sur Terre. Cet exploit, il faut que nous l'accomplissions avant la fin des 10 prochaines années.
C'est un pari. Entre l'exploit de Yuri Gagarin et le voyage aller-retour Terre-Lune, il y a autant de différence qu'entre les sauts de puce des premiers avions et la traversée aérienne de l'Atlantique. Pour tenir le pari, les Américains mettent en branle une énorme machine, la NASA, National Aeronautic and Space Administration. 3 ans plus tard, la NASA groupe 400 000 personnes, contrôle 18 centres spatiaux et dispose de 3 bases de lancement, dont la plus célèbre est Cap Canaveral, qui deviendra Cap Kennedy après l'assassinat du jeune président. Mais pour aller dans la Lune, il ne suffit pas d'un budget colossal, d'ordinateurs géants et de fusées chaque jour plus puissantes. Il faut aussi des hommes. La NASA les recrute. En 1962, ils ne sont encore qu'une poignée. Parmi eux, Neil Armstrong. Neil est né dans une petite ville de l'Ohio appelée Wapakoneta. Un vrai nom de peau rouge. Il y fait ses études secondaires et sa vie ressemble alors à celle de tous les enfants américains, partagée entre l'école et le sport. Comme beaucoup de ses camarades, le jeune Neil se livre à des menus travaux pour se procurer de l'argent de poche.
Alors, Neil, la journée a été bonne?
Très bonne. J'ai distribué des journaux et j'ai repeint la barrière de Mr. Smart.
Ma foi, tu vas devenir riche.
J'ai encore besoin de beaucoup d'argent.
Et pourquoi donc?
Je veux prendre des leçons de pilotage.
Ce brevet de pilote tant désiré, Neil l'obtient à 16 ans alors qu'il commence ses études scientifiques. Ingénieur, aviateur, Neil concilie ses 2 vocations. Il sera pilote d'essai. Un étrange appareil, mi-avion, mi-fusée, le X-15, lui procure son premier contact avec l'espace. Aux commandes de cet engin stupéfiant, le pilote d'essai Armstrong atteint l'altitude de 62 500 mètres et la vitesse de 6 382 km/h. Un double record. Armstrong entre à la NASA en 1962. Cette année-là, après de longs calculs et de longues discussions, les savants américains ont pris une décision primordiale. Elle concerne la trajectoire du futur voyage Terre-Lune.
Voici comment s'effectuera la première expédition lunaire qui durera 195 heures, ou si vous préférez, 8 jours et 3 heures, et qui sera accomplie par un équipage de 3 astronautes. Premièrement, une fusée à 3 étages, Saturne V, place le vaisseau spatial sur orbite terrestre en parking, comme disent les pilotes. Deuxièmement, au moment voulu, le moteur du troisième étage est remis en marche et imprime à l'engin une vitesse de 11 km seconde qui lui permet d'échapper définitivement à l'attraction terrestre et de se diriger vers la Lune. Troisièmement, le vaisseau spatial, ayant abandonné le troisième étage de la fusée porteuse, parcourt les 380 000 km qui séparent la Terre de la Lune, durée du trajet 72 heures. Quatrièmement, le vaisseau est arrivé à proximité de la Lune. Une manœuvre de freinage le place alors sur orbite lunaire, second parking. Cinquièmement, deux des astronautes prennent place dans le LEM. Le LEM, ou Lunar Module, est un engin spatial plus petit et beaucoup plus léger qui est accouplé par le nez au vaisseau principal. Le LEM se détache de celui-ci et, tandis que le troisième astronaute continue à tourner autour de la Lune, descend vers le sol lunaire et y atterrit. Voilà pour la première partie du voyage. Pour le retour, les astronautes répéteront, mais en sens inverse, les mêmes manœuvres et amerriront dans l'océan Pacifique grâce à 3 parachutes géants.
Cela paraît simple sur le papier. En réalité, une telle expédition pose des milliers de questions dont les techniciens de la NASA ignorent encore la réponse. Comment les astronautes supporteront-ils un séjour de 8 longues journées dans l'espace en état d'apesanteur? Comment se reposeront-ils? Comment se nourriront-ils? Comment effectueront-ils leur rendez-vous dans l'espace et leur atterrissage sur la Lune? Et qui trouveront-ils? Quelle est la nature exacte du sol lunaire, son relief, sa consistance? Quel danger précis représente la pluie de météorites qui, pense-t-on, s'abat sur notre satellite? Pour résoudre tous ces problèmes, la NASA lance les programmes Ranger, Surveyor et Lunar Orbiter, qui ont pour objectif l'exploration de la Lune. Le programme Mercury, qui étudie le comportement de l'homme dans l'espace. Puis le programme Gemini. Toutes ces études, toutes ces expériences ne sont pas du goût des impatients.